internet. 13-0-0, vous êtes connecté sur Move.
Move. 13h-13h30.
Move 13 Actu.
Alex Nassar.
Info, culture, société, sport, internet, tous les jours de 13 à 13h30 sur Move. Move 13 Actu, toute l'actu de ce mercredi 6 juin. Comment ça va la team Move 13 Actu?
Ça va.
Move 13 Actu en direct à la radio bien sûr, mais aussi en vidéo sur Facebook Live. Connectez-vous sur la page officielle Move Radio. Au programme aujourd'hui, Lise, les Antilles contaminées par une pesticide ultra toxique.
Oui, le chlordécone, et comme son nom l'indique, à un moment donné, les autorités ont déconné. Oui. Ce pesticide a empoisonné les Antilles pendant 20 ans et les conséquences devraient durer encore plusieurs centaines d'années. Je vous explique ce scandale écologique et sanitaire.
Ce sera dans le focus du jour. Guérin, comme tous les mercredis, toute l'actu connectée du moment.
Hey, salut les amis, c'est Guérin. Enfin, je sais pas si vous allez bien aujourd'hui, c'est la Zumba Tech. C'est super, pardon. Je voulais faire une intro à la David Lafarge Pokémon parce qu'il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort. Ma carrière de youtubeur est déjà finie.
Oui, c'est déjà terminé. Le nouveau jeu Pokémon, entre autres, ce sera dans la Zumba Tech et puis du sport, bien sûr, avec Greg, quand un simple match amical devient un drame géopolitique.
Ouais, le match Israël-Argentine de samedi prochain n'aura finalement jamais lieu. Match qui devait se tenir à Jérusalem. Sur le papier, un match de prépa comme les autres à 8 jours de la Coupe du Monde. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, mais alors pas du tout.
Non, pas du tout. Ce sera dans le trash talk du jour. Et puis Max aussi est avec nous en mode YouTube et littérature, Max.
Eh, hey, wesh la street, c'est Max Besnard.
Il le tient.
Grand fan. Ouais, YouTube et littérature, pardon. Pour le livre YouTube, derrière les écrans, ces artistes, ces héros, ces escrocs, ça vient de sortir. Et c'est comme Internet, c'est vraiment bien, c'est super chouette.
Et ça tombe très bien puisque l'auteur du livre est avec nous aujourd'hui.
13h-13h30.
Move 13 Actu. Move. Alex Nassar.
Notre invité du jour, il a 26 ans. Ah oui, ça met la pression.
J'étais pas prêt.
Il est auteur, journaliste. Il a écrit pour Slate, Libération, Mediapart ou encore Les Inrocks. C'est bon?
Oui, enfin Mediapart, j'étais en stage. Hein,
d'accord. Ouais,
allez, on sait pas, je l'ai dit. Voilà.
On prend le montage, c'est pas grave. Il vient de sortir un livre aux éditions Le Mieux. Ça s'appelle YouTube derrière les écrans. Ses artistes, ses héros, ses escrocs. Il a lui-même sorti quelques vidéos sur YouTube. Hein, des vidéos assez profondes, il faut bien le dire, notamment en 2016, lorsqu'il couvrait le festival de Cannes pour Slate. Attention, grosse analyse.
Bonjour, je suis arrivé à Cannes il y a quelques minutes et déjà, première impression, comme vous pouvez le voir, il pleut pas mal.
Voilà.
Mais c'était le titre d'un film.
Vincent Manilev est dans Move 13 Actu. Salut Vincent.
Bonjour à tous.
C'est sympa comme accueil. Hein.
Ah, mais là, je me suis fait visiter en 3 secondes.
Tu sais que YouTube n'oublie jamais rien. Hein. C'est comme Internet. Forcément, on tape ton nom sur YouTube, on tombe sur des trucs. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci de m'avoir invité.
Tu viens donc de sortir ce livre, hein, YouTube, ses artistes, ses héros, ses escrocs, aux éditions Le Mieux. C'est une enquête sur les rouages de la planète YouTube, notamment en France, c'est ça?
Oui, voilà, c'était l'envie de s'interroger sur ce qui se passe quand les caméras sont éteintes, quand on ferme l'onglet YouTube, et découvrir un petit peu tous les enjeux qui se cachent derrière ça. Voilà.
Il y a une connexion particulière entre toi et YouTube. Pourquoi tu as choisi YouTube en fait?
Bah, tout simplement parce que j'étais d'abord un consommateur de vidéos au lycée, à la fac. J'ai découvert, comme tout le monde, progressivement, les Norman, les Cyprien, les Natou. Et puis ça me touchait un petit peu de voir des gens raconter un peu leur vie, leurs problèmes. Et progressivement, puis un jour, on m'a dit, tu peux écrire des papiers sur YouTube. J'ai foncé quoi.
Ok. L'une des premières infos qui est vraiment marquante dans ton bouquin, c'est le chiffre 400 heures de vidéos mises en ligne sur YouTube chaque minute.
Oui, c'est délirant. Et même certains patrons de YouTube maintenant annoncent 450 heures par minute. Donc c'est-à-dire que voilà, là, le temps qu'on parle, il y a des milliers de vidéos qui sont uploadées. Et donc c'est un océan qui ne fait que grandir quoi.
T'as déjà fini YouTube?
Fini.
c'est un but dans ma vie quoi.
Je pense que j'ai effleuré 0, enfin 10 puissance moins 40 000 de ce que YouTube propose. Non, ça, y a pas de.
Non, c'est impossible.
Le boss final n'existe pas.
Il y a pas de fin. Enfin,
alors, paradoxalement, donc il y a énormément de contenu sur YouTube posté chaque jour. Paradoxalement, le nombre de gens qui vivent des vidéos qu'ils postent sur YouTube est quand même encore très très faible. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Est-ce que t'as des chiffres?
Il y a pas de statistiques là-dessus, mais effectivement, comme tu le dis, il y a tellement de contenu. Au final, c'est que les parts du gâteau se sont réduites, hein, simplement. Au début, les Norman Cyprien ont pu profiter, se faire un bon quart du gâteau. Aujourd'hui, si t'as une miette, t'es quand même content. Mais je pense que vraiment, et ça, j'ai pas de stats officiels, mais pour moi, et après avoir discuté avec pas mal de vidéastes, 99% des gens qui font des vidéos régulièrement sur YouTube n'en vivent pas ou gagnent 15 euros tous les 3 mois. Quoi,
99%.
Ah oui, moi, les
gens qui font de la vidéo sur YouTube n'en vivent pas.
C'est vraiment une minorité. On parle de quelques centaines de personnes à peine, et c'est ceux qui sont les plus visibles, parce que derrière, il y a énormément de monde qu'on voit pas. Donc,
mais en revanche, il y a a beaucoup de gens aujourd'hui qui rêvent. C'est devenu un objectif de vie pour certains, alors que comme tu l'expliques, c'est très compliqué d'en vivre.
Ah oui, c'est un fantasme. Moi, j'ai pu parler il y a pas longtemps encore à des lycéens et ils disaient ouais, YouTube, c'est une carrière pour faire de l'argent, etc. Mais ouais, pas du tout. Enfin, faut pas espérer en vivre. Et les critères de monétisation qui permettent d'avoir des pubs devant les vidéos se sont encore resserrés. Donc c'est encore plus difficile. Et il y a toujours plus de monde qui tente de faire ça, mais faut pas espérer, je pense.
Le seul endroit plus difficile, c'est le rap français.
C'est vrai. c'est encore plus dur.
Non, cela dit, des gens qui en vivent, effectivement, il y en a très peu. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent un petit peu d'argent avec YouTube, n'est-ce pas?
Oui, voilà, effectivement. Après, puisqu'il y a aussi des moyens différents de gagner de l'argent. Parce que maintenant, on sait que les pubs sur YouTube ne rapportent presque plus rien, moins d'avoir des millions d'abonnés. Mmh. Mais on peut se reposer sur ses abonnés, justement, via des plateformes qui permettent de les financer à chaque vidéo mise en ligne ou chaque mois. Il y en a qui gagnent plus de 1000 euros chaque mois grâce à ça. Ou via les partenariats avec les marques. Mmh. Où en gros, là, dès qu'on a 10, 15, 20 000 abonnés, on peut nouer des partenariats avec des marques et négocier des prix qui peuvent être des fois très intéressants.
Ouais, quand tu parles des plateformes, c'est type Patreon, c'est-à-dire que c'est des gens qui font des vidéos et qui demandent à des s'il y a suffisamment d'abonnés qui leur donnent de l'argent tous les mois, et donc là, ça leur fait un salaire pour pouvoir en faire. Et ils ne sont pas dépendants des vues.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une espèce d'indépendance maintenant vis-à-vis de la publicité, et donc c'est très intéressant pour certains qui veulent parler de politique, par exemple, de science, qui ont beaucoup plus de mal, de manière générale, à avoir des publicités devant leurs vidéos, parce que les annonceurs, une vidéo qui parle avec pédagogie de sexualité, et les annonceurs, ils ont très peur de ça. Donc si la personne, le vidéaste, va dépendre de ses abonnés, c'est plus de liberté, mais aussi des fois un peu plus de pression de la part de toute la communauté.
Bien sûr. Max.
Tu parles de pas mal de monde dans le bouquin, évidemment, les grands, hein, Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, Mister V, tout cela. Ça, c'est des gens qui sont dans le game quand même depuis quasiment une dizaine d'années, depuis l'explosion, on va dire, de YouTube. Est-ce qu'on peut les considérer encore comme des YouTubeurs aujourd'hui, ces gens-là?
Alors, quand j'ai rencontré Cyprien pour le livre, en fait, il me disait simplement que lui, être YouTubeur, ça ne le dérange pas, mais il veut pas qu'on le limite à ça. C'est pour ça que moi, j'aime bien le terme créateur qui revient, donc qui est un peu brandé par YouTube. Mais créateur, ça permet de dire, même si c'est un peu flou, que ces personnes-là font plein de choses. Bah, effectivement, Cyprien, il fait des courts-métrages, il fait des BD. Enjoy Phoenix, elle a sorti un livre de recettes là il y a pas longtemps. Donc effectivement, ce terme-là, je pense, est beaucoup plus englobant et permet de donner plus d'importance et d'ampleur à ce qu'ils font réellement au-delà de leurs vidéos sur YouTube.
Et alors, au-delà de tous ces grands noms, c'est qui la nouvelle génération?
La nouvelle génération, on parle beaucoup de Seb Lafrite, par exemple, de Maxence. Maintenant, c'est pas vraiment la nouvelle génération, c'était là depuis très longtemps, mais McFly et Carlito, ils ont explosé depuis un an.
Oui, donc, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils sont là.
Ça fait un petit moment, mais ils ont changé de network, peut-être qu'on en reparlera après, mais en gros, maintenant, ils ont vraiment des millions d'abonnés. Et sinon, il y a Emma Cakeup pour le lifestyle, il y a Oria, il y a tout un tas de noms qui ont déjà des millions d'abonnés.
Non, c'est fou parce qu'on est passé de grandes stars genre Monica Bellucci à Seb Lafrite. Je trouve ça marrant, sur le côté tapis rouge Festival de Cannes, alors que arrive Seb Lafrite. C'est marrant.
Il y avait des youtubeurs sur le tapis rouge cette année, et depuis quelques années déjà, ils font la montée des marches.
Oui, justement, j'allais dire, il y a quand même une vraie perméabilité aujourd'hui entre le monde du cinéma, de la télé et YouTube finalement.
Oui, parce qu'ils sont devenus influents, donc il y a le terme influenceur qui est bien connu, et il suffit d'inviter un youtubeur à un événement Magnum à Cannes, il va faire des stories Instagram, il va faire de la pub en fait pour Magnum, et c'est tout bénef pour la marque.
Tu parlais de network il y a un instant, c'est quoi un network?
Un network, donc en gros, même les gens du milieu ont du mal à le définir, donc ça va être un peu difficile
pour
moi.
C'est très difficile. Voilà, tu as 7 secondes.
C'est, on va dire, une boîte de production qui aide les créateurs à faire du contenu, à négocier avec les marques. Je pense que j'ai fait 6 secondes là à peu près.
C'est pas mal.
Ça passe à peu près. Mais oui, voilà, en gros, c'est souvent, il y a des gros groupes audiovisuels ou de l'internet derrière. Donc il y a Webedia notamment, qui a Mixicom, qui est un peu le PSG des youtubeurs, où il y a vraiment tout le monde, Cyprien, Norman, McFly et Carlito. On voit leur bureau, le décor de McFly et Carlito, c'est le bureau voisin du patron de Mixicom. Et juste encore à côté, il y a Squeezie. Les autres sont dans des open space, en fait, en gros. Voilà, c'est vraiment les patrons, quoi, du coin.
Les autres, c'est les Adrien Rabiot, quoi. J'ai pas de vidéo, il fait froid.
Il y a une question qui revient quand même un petit peu tout le temps dans ton bouquin. Évidemment, c'est la question de l'argent sur YouTube. Gagner de l'argent en faisant seulement des vidéos sur YouTube sans passer par des partenaires, de la publicité, c'est encore possible aujourd'hui?
Non, de moins en moins, parce qu'il y a en 2017 surtout, il y a eu pas mal de polémiques où on s'est rendu compte qu'il y avait des publicités qui étaient placées par Google devant des vidéos extrémistes. C'est-à-dire que indirectement, des marques finançaient des contenus vraiment dangereux, voire
c'est
des groupes d'extrême droite, etc.
Et
donc, il y a eu une énorme polémique. Les annonceurs ont retiré leur publicité. Google a dû réagir, comme souvent, en privilégiant les annonceurs. Et donc, ils ont resserré les critères de monétisation. Et donc, de moins en moins d'youtubeurs peuvent espérer avoir des publicités devant leurs vidéos. Il suffit des fois qu'il y ait un gros mot ou ce genre de choses, que ça aborde un sujet un peu entre guillemets délicat.
En parlant de publicité, il y a la question des pubs cachées sur YouTube. Comment on fait aujourd'hui pour savoir si le YouTuber ou la YouTubeuse qui parle d'un produit le fait vraiment sincèrement ou plutôt parce qu'il y a une rémunération derrière?
Alors normalement, au début, c'était un peu le Far West. Les partenariats n'étaient pas du tout indiqués ou alors très mal au fond de la description sous la vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Il y a des efforts qui sont faits, mais même quand il y a un partenariat ou si on clique dans la description, des fois il y a des phrases merci à Netflix de nous avoir aidé à réaliser cette vidéo. C'est, par exemple, Norman, il a fait une parodie de Stranger Things il n'y a pas longtemps. Et ben ça, pour moi, c'est pas très clair. Là encore, c'est un petit peu flou. Et puis même, par exemple, pour parler du YouTube beauté, les vidéastes, les femmes qui recommandent des produits qui sont sponsorisés, elles disent toujours oui, mais j'en parle seulement parce que je l'aime. Mais ça, c'est difficile d'en être certain.
Ouais, ça serait quoi justement la solution pour éviter ça?
La solution pour éviter ça, c'est qu'il y a une législation beaucoup plus claire, qu'elle impose des termes, parce que YouTube commence à mettre en place des outils pour, sur Instagram aussi, hein, en partenariat avec, etc. Mais il faudrait que vraiment on puisse avoir, imposer des termes à un endroit au début de la vidéo, et comme ça, même si elle est en BD ailleurs, sur un autre site, on le sait.
Ce serait tellement bien si les youtubeuses beauté disent oui, mais j'en parle parce que j'aime l'argent.
Je suis sûr qu'il y a des youtubeuses qui sont honnêtes comme ça, qui assument.
Si t'es d'accord, on va jouer à un petit jeu, Vincent.
D'accord.
Ton livre s'appelle YouTube, ses artistes, ses héros, ses escrocs. Je vais donc te donner des noms. Et à chaque fois, tu nous réponds artiste, héros ou escroc.
Oh là là.
Un genre de ni oui ni non.
Ou les trois, non?
Ou les trois.
Sinon, je vais avoir 10 procès.
Ça fonctionne. Non, tu vas voir. Il n'y a pas de piège. Alors, premier nom, Jawed Karim, c'est l'un des fondateurs de YouTube, dont tu parles dans le livre.
Pour moi, c'est un héros, parce qu'en plus, c'était le premier à avoir fait une vidéo sur YouTube. Il se filmait devant des éléphants en train de parler de sa visite.
La première vidéo YouTube.
Voilà. Et il a été un petit peu occulté de l'histoire de YouTube en plus. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qu'on devrait un petit peu. Dont on devrait reparler en tout cas.
Norman,
pour moi, c'est un héros dans le sens où il a été un des pionniers en France. Il est passé Dailymotion à YouTube et a été le premier à exposer. Même si dernièrement, c'est vrai dernière vidéo, mais un petit peu. Bon, voilà.
Alors, petit rappel, la polémique sur la dernière vidéo de Norman qui est sortie il y a quelques jours, qui présente Internet comme un terrain miné où on ne peut plus rien dire, plus faire de vannes sans s'en prendre plein la gueule. Et paradoxalement, à cause de cette vidéo, il en prend plein la gueule, Norman.
Oui, mais peut-être que lui, il va se défendre en disant vous voyez, on peut plus rien
dire.
Peut-être que lui, il va jouer là-dessus, mais effectivement, mais moi je m'attendais pas à ce que Norman, qui fait des blagues quand même assez lisses, très consensuelles, ad-friendly hein, pour les publicitaires comme on dit, qui se retrouve à dire qu'on peut pas faire de vannes sur les féministes, sur les homosexuels, etc. Enfin, donc je trouvais un décalage qui était assez malvenu.
Alors Google AdSense, justement, puisqu'on parle de pub, alors héros, artistes, escrocs.
Pour moi, je rangerais plutôt dans la catégorie escrocs, parce que notamment parce que dernièrement il y a eu toute une campagne sur internet avec un hashtag qui s'appelle Mon Corps sur YouTube, qui a été lancé par les internets, une association de TES, qui s'appelle les internets de TES, pardon. Et en gros, ils expliquaient que les vidéos où les femmes parlent de leur sexualité ou de leur corps étaient démonétisées. C'est-à-dire qu'elles pouvaient pas prétendre avoir des publicités devant leurs vidéos. Et pour moi, c'est un problème profond.
D'accord.
Et que YouTube ne prend pas vraiment en charge.
Très bien. Google AdSense, escroc, c'est noté. Webedia, l'énorme groupe, le PSG du YouTube Game. Dans quelle catégorie on les classe, là?
Est-ce qu'il y a une option ne se prononce pas?
Disons que l'option ne se prononce pas, on l'interprète comme on veut.
Après. Disons qu'ils ont tellement de puissance dans cet univers-là qu'ils peuvent en un instant faire monter une star comme ils veulent en le recrutant et en lui faisant faire des vidéos avec les autres, avec McFly et Carlito. Donc voilà, je suis assez mitigé sur l'impact de Webedia et de Mixicom sur le YouTube français.
Swan et Neo, alors on rappelle ces deux enfants qui tournent quotidiennement dans des vidéos faites par leur maman.
Alors,
dans quoi on les classe ceux-là?
Alors,
est-ce que c'est légal?
Déjà, alors, donc Swan et Neo, donc je vais répondre plutôt par rapport à leur maman. Donc moi, il y a un côté qui me dérange énormément, je ne vais pas dire forcément escroc, mais il y a un côté qui me dérange dans le sens où elle a dit que c'est elle et son mari qui travaillent en les filmant, etc., que c'est un vrai boulot et que pour eux, c'est simplement du loisir, du plaisir, de déballer des jeux, d'aller dans des parcs d'attractions. Alors qu'ils font presque une vidéo par jour, sachant que la loi, c'est 6 heures de travail maximum par semaine, il me semble, pour un enfant.
D'accord.
Il y a un gros problème et il y a une polémique en ce moment qui est montée. Et donc j'espère que là aussi, il va y avoir des règles beaucoup plus strictes par rapport.
Ouais, ça c'est clair.
Donc je m'inquiète pour Neo et Swan en tout cas.
D'accord. PewDiePie.
PewDiePie, il a un côté héros, il a un côté escroc, un côté héros parce que c'est le plus suivi au monde et parce qu'il a été un des premiers, il a inspiré un peu Squeezie, etc. Et il a un côté escroc aussi parce qu'il a posé beaucoup de polémiques, il a lancé en live le N-word comme on dit, il a eu des propos, il a fait des blagues antisémites très très gênantes, mais là apparemment il souffre un peu de dépression en ce moment, donc voilà, je veux pas trop me prononcer là-dessus.
Pour le coup, lui, il incarne absolument le magistrat ancestralement même ce délire de, sur Internet, sur YouTube, de bah, finalement YouTube a une mémoire très très courte. C'est-à-dire qu'on peut complètement déraper sur YouTube en étant une star et deux semaines, trois semaines plus tard, ah, ça y est, c'est effacé, on n'en parle plus quoi.
Oui, ça arrive tout le temps en France. Il y a des polémiques, hein, il y a eu des affaires de blackface et puis deux semaines plus tard, la même personne se faisait maquiller par Rihanna chez Sephora. Donc,
Tiens, un dernier nom, encore deux noms pour la route. Florian Philippot, dans quoi tu le mets lui? C'est les youtubeurs hein, maintenant.
Mal de tête.
D'accord, très bien, c'est parfait. C'est ne touche à rien. Ouais. Et Kim Kardashian pour finir.
Kim Kardashian.
Elle a une grosse chaîne YouTube. Hein. On parle beaucoup de son Instagram, mais elle est sur YouTube.
Elle a un côté un peu héros parce qu'elle inspire pas mal de monde et c'est une vraie. Enfin, c'est une chef d'entreprise.
C'est une femme d'affaires, bien sûr.
C'est une femme d'affaires et en fait, ça dépasse tellement YouTube que c'est vrai que c'est difficile de la situer par rapport à ce milieu-là.
Oui, Max. Petite dernière question, Vincent. Pourquoi, juste vu la connaissance que t'as du YouTube game, comment ça se fait que toi t'as pas encore lancé ta chaîne?
Genre, il a fait des chaînes YouTube, on a entendu au début. Alors,
c'est
une vraie
chaîne, genre Team Vincent, tu vois. Team Vincent.
C'était sur la chaîne de Slate, c'est des snaps que je faisais lors du festival de Cannes. D'où mon malaise constant en costard. Non, moi ça m'intéresse, j'essaye, parce que j'avais envie de comprendre un petit peu le montage, etc. Mais après, c'est très compliqué. En parlant avec tous les gens du milieu, se lancer là-dessus, c'est vraiment faire preuve de courage parce qu'il faut s'affirmer face caméra, il faut s'affirmer face au public en fait. Et ça tend à des jugements des fois très cruels. Donc moi, je suis pas suffisamment à l'aise pour me permettre ça, je pense.
Merci beaucoup Vincent, ton livre hein, YouTube, ses artistes, ses héros, ses escrocs, dispo dès maintenant aux éditions Le Mieux. Et pour en apprendre encore plus sur le YouTube game, move.fr avec ta vidéo du jour, Max, réalisé avec Vincent, 5 trucs à savoir avant de se lancer sur YouTube, c'est à voir tout de suite sur move.fr et sur YouTube évidemment. Tu restes avec nous Vincent parce qu'il n'y a pas que ton livre dans l'actu aujourd'hui.
Évidemment.
Move très actu
jusqu'à 13h30.
Le focus de Move très actu, tous les jours un sujet a priori compliqué expliqué en seulement 3 minutes. Aujourd'hui, Lise, le chlordécone. Alors c'est pas un youtubeur humour hélas.
Non, hélas.
C'est quoi le chlordécone?
C'est un pesticide utilisé massivement entre 1972 et 1993 en Martinique et en Guadeloupe. Il était considéré un peu comme le remède miracle contre le charançon du bananier, un insecte qui détruisait toutes les cultures.
Alors, et ce pesticide a des effets dévastateurs sur la santé.
Ouais, il est ultra toxique, c'est un perturbateur endocrinien reconnu comme neurotoxique et reprotoxique, ça veut dire qu'il peut altérer la fertilité. Okay. Il a été classé c'est cancérogène possible dès 1979 par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé alors qu'il était hyper toxique? On ne savait pas?
Si, c'est ça le pire, sa toxicité était connue. En 1969 déjà, la commission des toxiques qui dépend du ministère de l'Agriculture avait rejeté l'homologation du chlordécone en cause de la toxicité de la molécule constatée sur des rats et sa persistance aussi dans l'environnement. Mais voilà, 3 ans plus tard, ça passe. La commission des toxiques l'autorise en 1972.
Et le chlordécone va ainsi être utilisé pendant 20 ans dans le plus grand des calmes.
Voilà. Voilà, il fallait bien préserver la filière banane essentielle à l'économie des Antilles. Mmh. 20 ans pendant lesquels ce produit ultra toxique est utilisé dans les bananeraies et manipulé sans protection.
Et on a mis 20 ans à se rendre compte qu'il fallait arrêter.
Oui, le produit a été interdit en France en 1990, 13 ans après les États-Unis. Okay. Mais bizarrement pas aux Antilles, qui font pourtant partie de la France, on le rappelle.
Ouais, c'est bien.
Grâce à 2 dérogations, le produit est resté autorisé en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993.
Et 25 ans plus tard, les ravages sont considérables.
Oui, et pas seulement dans les sols, mais aussi dans les rivières et sur une partie du littoral. Le chlordécone a contaminé le bétail, les volailles, les poissons, les crustacés et les légumes racines.
Et donc aussi toute la population.
Voilà, c'est simple et tragique. La quasi-totalité des Antilles est contaminée. 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais.
Wow.
Et sur des générations entières, la contamination pourrait persister jusqu'à 700 ans, selon les sols, d'après Le Monde qui consacre une longue enquête sur le sujet.
Alors, et ça vaut aux Antilles de détenir un triste record, celui du nombre de cancers de la prostate.
Oui, il est 2 fois plus fréquent et 2 fois plus grave en Guadeloupe et en Martinique qu'en métropole, avec plus de 500 nouveaux cas par an sur chaque île.
Comment ça se fait que ce scandale fasse pas plus de bruit?
Eh bien parce que ça coûte très cher à l'État, Nassar. Imagine qu'ils doivent assumer ses erreurs et indemniser les victimes, par exemple. Voilà. Ouais, ça fait des années que scientifiques et médecins tentent d'alerter sur le sujet, mais leurs efforts sont à chaque fois empêchés pour d'obscures raisons à chaque fois.
D'accord.
Cet embarrassant dossier est arrivé sur le bureau d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et il n'est plus possible de dire qu'on ne savait pas.
Vincent, t'avais entendu parler de cette polémique, de ce scandale?
Oui, et puis en fait, c'est terrible parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent des scandales sanitaires ou alimentaires dans les Antilles, etc. Et qu'à chaque fois, voilà, il faut attendre souvent très longtemps pour que la métropole, entre guillemets, s'en saisisse. Donc c'est assez terrible.
C'est flippant, hein, Guérin.
J'ai l'impression que s'ils n'avaient pas été noirs, ça serait allé plus vite. Je sais pas. Hein. Je dis ça, je dis rien.
C'est possible. On suivra, bien sûr, hein, les suites de ce scandale. Merci beaucoup, Lise, pour ce focus. Toute l'actu high-tech du moment. Tiens, je vais demander à mon assistant personnel. Ok, Guérin, c'est quoi le programme du jour dans la Zumba Actu?
Ta gueule, Nassar. Tu m'emmerdes avec tes sommaires. T'avais qu'à lire le mail que je t'ai envoyé ce matin.
Très bien. La Zumba E-Tech.
Wesh, la street, c'est Alexa.
La Zumba E-Tech, c'est dans une minute. Mais d'abord, Greg a une info pour nous. 13-20 sur Move.
Move 13 Actu. Alex Nassar.
Move. Le sachiez-tu de Greg? Tous les jours, une info totalement inutile, une info qui sert à rien. C'est comme ça tous les jours. Et aujourd'hui, Greg, une info totalement useless sur notre invité, Vincent Manilev.
Ben oui, parce qu'on se connaît.
Mais non, Vincent.
C'est mon demi-beauf.
C'est ton demi-beauf. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Parce que c'est le mec de la demi-sœur de ma chérie.
Et on dirait le mec de la plus beauf que demi, en fait.
C'est vrai, on dirait un demi-beauf, c'est un mec qui regarde du foot mais il boit pas de bière. Je suis demi-beauf.
C'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Ah, vous êtes un peu
on a fait Noël. T'as vu le livre sur le Japon que t'as eu du coup?
Ah, il est
Franchement,
il est vraiment bien.
Ouais. Non, discussion inutile du coup, on est dans le délire,
bien sûr, c'est l'info inutile.
Mais ouais. Non, c'était bien, on a fait Noël ensemble, on s'est mis en pyjama, c'était bien.
Qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à Noël, Vincent?
Ah, j'ai eu plein de choses. Un très beau livre sur le Japon. Ouais. Des
t'as offert des mugs, non?
Ouais, des mugs, ouais.
Tu l'utilises ou pas, le mug?
Les mugs, ouais. Bah après, j'ai une.
C'est vraiment bien.
C'est plutôt celle-là, mais sinon la tasse, ouais, elle est vraiment bien.
On est sur une belle séquence.
Ah oui, une tranche de vie.
On m'a lancé.
Bah non, mais c'est normal. Merci beaucoup, Greg, pour cette info.
Ah ouais, celle-là.
Bah, voilà. Elle était inutile. Voilà. On te retrouve pour le trash talk du jour. Je rappelle qu'il est payé pour ça quand même. Tiens, voilà. On te retrouve pour le trash talk du jour consacré au match Israël-Argentine, Grégo.
Oui, match de préparation à la Coupe du Monde qui devait se tenir samedi à Jérusalem. Sauf que ce match n'aura jamais lieu. Intimidation, menace, maillot ensanglanté. Les Palestiniens n'en voulaient pas de ce match et ils l'ont bien fait savoir.
Ce sera dans le trash talk dans quelques instants.
Alex Nassar.
Move très actu.
13-21, c'est l'heure de la Zumbactu de Guérin, comme tous les mercredis, toute l'info technologique du moment, c'est la Zumbitech juste après, un mot notre partenaire bien sûr.
La Zumbactu vous est offerte par Halal Vengers, le premier film Marvel Halal avec Superman, Spider-Man et Musulman qui a tous ses pouvoirs grâce à son star foulard.
Voilà. Magnifique, succès garanti. On commence ce tour d'horizon de l'actualité avec le nouvel objet connecté d'Amazon disponible en France.
Après les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Amazon Echo Dot est dispo dans la Startup Nation. Alors l'Amazon Echo Dot, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de boîtier assistant personnel à commande vocale, comme Siri sur ton téléphone ou OK Google, mais à la maison. Il suffit de lui dire Alexa et hop, il peut te commander des trucs sur Amazon ou bien contrôler des objets dans ta maison connectée, histoire qu'on puisse encore plus rester à rien foutre sur son canapé et que toute ta baraque puisse se faire pirater. Mais c'est évidemment génial puisque c'est nouveau.
Bah bien sûr, mais ça fait un moment que c'est sorti aux États-Unis. Pourquoi ça arrive que maintenant chez nous en France?
Parce qu'Amazon a voulu s'adapter à la culture française pour une expérience 100% locale. Ils disent par exemple que si on demande à Alexa qui est favori pour la Coupe du Monde en Russie, Alexa répond les Bleus. Ouais. Donc déjà c'est foiré parce qu'une vraie expérience française, c'est ça, c'est Alexa, qui va gagner la Coupe du Monde?
C'est pas l'équipe de France vu qu'on est nul et que Didier Deschamps n'a pas de dents.
Voilà. Ou bien Alexa, j'ai plus de pain de mie, tu peux m'en commander?
T'as qu'à bouger ton gros cul, espèce d'assisté, encore pire qu'un cheminot.
Et là, ça c'est la France.
Ça, mais c'est vrai que là, du coup, c'est plus crédible d'un coup. Non, mais c'est vrai. On se projette mieux. On continue avec Facebook qui a encore fait une connerie.
Ouais, après le scandale Cambridge Analytica, la société qui a volé les données personnelles de 87 millions de personnes, vous vous souvenez, Mark Zuckerberg avait juré que c'était la seule connerie qu'ils avaient faite. Il a dit non, c'est bon, après on n'a plus fait de conneries. Bon, aujourd'hui, méga surprise, on apprend que Huawei, les téléphones chinois, qu'on appelle aussi en termes techniques les téléphones de merde, et d'autres boîtes en Chine ont eu accès à nos données, on s'en doutait. Hein, mais franchement, Marc. C'est le béaba. Quand tu te fais gauler par ta meuf sur Jackie et Michel et que tu lui dis c'est pas du tout ce que tu crois, en plus c'était la première fois, efface l'historique. C'est la base. Ah
bah bien sûr, tout le monde sait ça. Enfin, on continue avec Apple qui a révélé plein de nouveaux emojis.
157 nouveaux petits émoticônes. On est sur une éditoriale très franc-pro.
Ah ouais,
hein, avec beaucoup d'innovations capillaires. On a par exemple l'apparition des emojis roux avec des visages de toutes les couleurs. Donc c'est super pour les roux-nois. C'est les roux-renois. Ils sont trois, ils sont contents. Ils ont vraiment ratissé large parce qu'il y a même l'emoji kangourou. C'est rigolo. Et puis la coupe.
Ah oui, d'accord, kangourou.
Laisse pisser.
Ah, je l'avais pas.
Bah, j'avais pas non plus.
Ah, mais attention, moi je suis sur l'autoroute. Hein. Voilà. Et puis on a la coupe afro là encore dispo pour toutes les ethnies. Une belle nouvelle pour Antoine Griezmann qui va pouvoir faire des blackface en emoji.
Et le racisme en DN, c'est vraiment sympa.
C'est toujours très sympa. On termine avec le nouveau jeu Pokémon Go qui s'appelle Pokémon Let's Go.
Oui, un des nouveaux jeux que Nintendo va présenter à l'E3, le grand salon du vidéo à Los Angeles qui démarre la semaine prochaine. Mm-hmm. Et Pokémon Let's Go, si j'ai bien compris, c'est comme Pokémon Go, sauf que c'est sur la Switch.
Oui.
Donc on sera plus obligé de jouer dans la rue, on pourra attraper des Pikachu dans son salon. Ce qui est pratique, parce que vu comme ça, on voit son gosse descendre sauter du balcon. mauvaise nouvelle pour les sans-papiers fans d'escalade, par contre.
Bah oui.
C'est sûr.
Vincent, tu suis forcément de près tout ça. La grosse hype du moment, c'est les assistants personnels. On va tous se retrouver à parler comme ça, à demander à notre assistant de calculer combien de temps il faut mettre un œuf à cuire, ce genre de choses.
Je sais pas, vous parlez de l'assistant du voisin. Moi, j'avais essayé dans mon ancien appart de parler à l'assistant du voisin pour lui demander de mettre du Joule ou un truc comme ça. Ça n'a pas marché. Donc, je parlais tout seul à un mur. Mais
Ça, c'est un grand moment de solitude. C'est presque pire que l'info YouTube. Faut faire attention. Je voudrais faire des vidéos sur YouTube de ça. Merci beaucoup, Guérin, pour ce point très complet sur l'actu connectée du moment. Kelly, qui n'est plus tricard sur Spotify, Guérin.
Non, parce que Spotify a détricardé tout le monde.
Ouais.
Ils ont un nouveau règlement qui annule le nouveau règlement.
Ouais.
C'est un peu technique, mais je vais vous expliquer.
Ce sera dans les Gossip Pop juste après le trash talk. 13h25 sur Move.
Du lundi au vendredi, Move 13 Actu.
Le trash talk de Move 13 Actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg, le match amical Israël-Argentine qui n'aura jamais lieu.
Et ouais, J-8 avant le début de la Coupe du Monde.
Plaisir.
J'ai chialé hier devant France.
Ah oui, sur France 2, ouais. Ils sont tous en mode Coupe du Monde, c'est incroyable.
Bon voilà, ça fait toujours plaisir. Donc la Coupe du Monde approche à grands pas et les équipes engagées jouent leur dernier match amical. La France joue samedi soir contre les États-Unis et l'Argentine devait aussi jouer samedi contre Israël avant de s'envoler pour la Russie.
Mais finalement, non, match carrément annulé à la dernière minute. Pourquoi il ne se jouera pas ce match?
Alors parce qu'il a déjà provoqué un énorme bordel en Argentine et en Israël. En Argentine, déjà des manifs devant le siège de la Fédé à Buenos Aires et sur les réseaux, le hashtag Argentina no bias. Argentine n'y va pas.
Cet accent extraordinaire.
Ouais.
Donc a priori, non mais c'est bien, c'est bien. Donc a priori, des gens pas forcément fans de la politique d'Israël en ce moment.
Voilà, c'était déjà très chaud alors que le match devait à la base se jouer à Hébron et c'est parti carrément en vrille quand finalement la rencontre a été délocalisée à Jérusalem.
Dans la ville sainte donc où le climat est pas spécialement serein en ce moment.
Non, depuis plusieurs semaines c'est très chaud entre Israéliens et Palestiniens dans la région. Plusieurs dizaines de Palestiniens sont morts. Le président de la Fédération Palestinienne de Foot, Jibril Rajoub, s'est exprimé sur ce match. Pour lui c'est tout simplement une provocation d'Israël. Dimanche soir, il lançait carrément un appel à Lionel Messi.
Messi
est un symbole de paix et d'amour, un ambassadeur de l'UNICEF qui répand l'amour et la tolérance. Nous exigeons qu'il ne joue pas et qu'il ne serve pas de moyen d'embellir l'image de l'occupation fasciste israélienne et de sa politique raciste.
Voilà.
Il appelait aussi à brûler les maillots et les posters de Messi s'il jouait.
Alors, c'est sûr que dans ces conditions, il y avait de fortes chances que le match soit prétexte à de nouveaux affrontements. Du coup, son appel a été entendu.
Ouais.
Argentina Football Association ka judat mandana ekdam palestini bachon ki appeal par hafte ko Israel ke
khilaf. Là, j'ai pas tout compris. Là non, j'ai pas tout compris, mais oui, le match est annulé. Plus que l'appel de Rajoub, ce sont surtout les intimidations qui ont été entendues. Hier au centre d'entraînement des Argentins à Barcelone, des militants palestiniens ont brandi un maillot de la sélection argentine maculé de peinture rouge sang.
Oula.
Insultes, menaces sur les joueurs et leurs proches, appel à ne pas jouer, des événements qui ont marqué les joueurs selon les médias argentins.
Ouais, c'est pas la meilleure façon de préparer sereinement une Coupe du monde. Lionel Messi a réagi.
Alors
suite
non,
à tout ça
pas encore, pas sûr qu'il le fasse, mais Gonzalo Higuaín, le buteur argentin de la Juve, a pris la parole. Pour lui, annuler le match était la seule chose à faire. Nous pensons que le mieux est de ne pas y aller. D'abord la santé et le sens commun, c'est ce qu'il a déclaré. La Fédé palestinienne s'est évidemment réjouie de la nouvelle. L'Argentine a décidé de ne pas organiser d'autres matchs de prépa et de rester focalisée sur la Coupe du Monde. Le premier match pour eux, ce sera contre l'Islande le 16 juin.
Annuler le match, c'était la meilleure solution selon vous, Guérin?
Ça avait tellement été récupéré que ça devenait toujours compliqué. Ouais.
C'est incroyable les proportions qu'on peut avoir juste avec un match de foot. C'est assez ouf. Hein.
Non, mais c'est-à-dire que c'est pas comme si c'était, comme t'as dit, c'est pas comme si c'était serein au Moyen-Orient.
Non, c'est voilà, on est bien d'accord. Vincent, tu vas suivre la Coupe du Monde? T'intéresses au foot?
Oui, comme un gros footix.
T'es un gros footix.
Ah oui, moi je suis un footix presque assumé, parce que c'est vrai que je suis que les compétitions internationales, mais je ferai ça avec plaisir. J'ai vu le truc de l'équipe sur France 98, leur site, etc. Et c'était extrêmement plaisant. Et voilà, voir Thuram en larmes, ça m'a ému aussi. Donc j'espère retrouver d'autres sensations comme ça avec ou pas, voilà.
C'est beau ce que tu as. Merci Greg pour ce trash talk. L'Algérino, ça arrive avec Babéné dans moins de 3 minutes avec Morgane. Restez connectés sur Move.
Du lundi au vendredi, Move 13 Actu, Move
jusqu'à 13h30.
Les gossip hop de Move très actu, les infos hip-hop du jour servies en streaming parce que Spotify vient d'annuler sa nouvelle réglementation sur la conduite des artistes, Guéran.
Alors ça n'a rien à voir avec le permis de conduire. Hein,
la non, c'est bien de le
dire. Souvenez-vous, c'était le 10 mai, une autre époque, je vous parle d'un temps, on n'était pas encore obligé de faire des tractions sur des balcons pour devenir français. Et Spotify annonçait qu'il retirait R. Kelly et XXXTentacion de toutes leurs playlists conformément à leur nouveau règlement, à savoir ne plus mettre en avant des gens avec des noms chiants. Non, des gens avec des discours haineux, violents et plus généralement des artistes qui avaient un mauvais...
comportement, bah ouais.
Oh là.
J'ai dit comportement, bah ouais.
Le mouvement MeToo...
Ça faisait longtemps.
Bah oui, les disques d'or, un peu de sa scène, ça fait plaisir. Le mouvement MeToo avait applaudi cette décision du côté des maisons de disques et des labels. On avait eu une réaction un peu différente, un peu genre gueule de bois du nouvel an. Quand quelqu'un te propose de faire un footing pour commencer l'année, toi tu fais... Et depuis, gros débat, est-ce que le rôle de Spotify est de censurer? Et surtout, doit-on séparer l'artiste de son...
comportement bas?
Oh, le lourd. Bah, elle est contente, Aya Nakamura.
Ah, bah oui, attends.
Hein. Elle prend de la SACEM. Mais la question ne se pose plus. Spotify annonce aujourd'hui que ce nouveau règlement dégage.
Ouais, ils reconnaissent qu'ils voulaient bien faire, mais eux-mêmes disent que les nouvelles règles étaient trop floues. Parce que c'est quoi, les discours haineux? Exemple, quand Booba dit.
Je vais attacher les mains, c'est ses fesses qui applaudissent.
Est-ce que c'est misogyne ou c'est une proposition d'activité sportive innovante? Par exemple, pour le gainage, la coordination, on ne sait pas. Ou bien Zaz, est-ce que c'est pas une incitation à la haine? Des rasta blancs, on ne sait pas. Y a débat. Et puis si R. Kelly dégage, pourquoi pas Chris Brown qui tabasse des fans, Michael Jackson ou même Usher?
Usher, mais qu'est-ce qu'il a fait, Usher?
Il y a deux femmes qui l'accusent de leur avoir refilé Nicolas Sarkozy. Pardon.
Hein?
Deux femmes l'accusent de leur avoir refilé de l'herpès. Je confonds souvent les deux. Parce que c'est des trucs relous qui finissent toujours par revenir te casser les couilles. Bref, maintenant, il y a aussi un homme qui accuse Usher de lui avoir refilé des mycoses. Un homme qui a un rapport sexuel non protégé avec le chanteur dans un spa coréen à Los Angeles.
D'accord.
Alors, est-ce que c'est pas un mauvais comportement? Alors, je parle pas de faire l'amour avec un homme, évidemment. Mm-hmm. De refiler des MST.
Oui.
Et d'aller dans des spas coréens. Et puis, si on commence à interdire des artistes qui ont une sexualité différente, interdisons la musique. C'est un
but. C'est sûr. Merci beaucoup, Guéran. Toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Merci, Vincent, de
merci
nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux. En plus, c'est de la famille de Greg.
Ouais, ouais.
Voilà, vous revenez, tout ça.
Tu passes, tu viens à la maison. Et puis...
Je rappelle que ton livre, hein, YouTube, ses artistes, ses héros, ses escrocs, est dispo aux éditions Le Mieux. Je rappelle que c'est une super enquête sur les coulisses de YouTube. Tu vas le lire, Morgan?
À fond, carrément. Ah. Carrément, ce week-end, quand j'aurai un petit peu de temps, avec plaisir.
Comment ça va sinon?
Bah ça va bien. Salut tout le monde. Salut tout le monde, ça va bien. Bonjour monsieur Manilev, ça va bien. Toujours
très respectueux.
On va avoir le même âge.
Très bien, m'appelle monsieur.
Il donne du monsieur. Il fallait attendre la radio, il fallait que j'arrive.
C'est quoi ton t-shirt?
C'est J'y vais au talent sans pression.
J'y vais au talent sans pression.
Comme ça, ça tout tranquillement.
Un peu comme Grégo pendant le blind test.
Effectivement, un petit peu comme les blind tests chaque jour à 13h30. Je rappelle que quand même, après 147 heures collées à Greg, le Golden Yuko a changé de main. Eh ouais, après son petit week-end champêtre, il est rentré les mains de Guéran aujourd'hui.
Ça, c'est le trophée pour le vainqueur du blind test
tous les jours.
Tous les joueurs Golden Yuko.
Et ça commence à prendre de l'ampleur sur Twitter. Eh ouais, ça commence à prendre de l'ampleur
sur
Twitter.
Les gens parlent.
Il y a un buzz. Là, on est gros buzz.
Un buzz de niveau DJ First Mike. Chaîne YouTube de blind test.
Ah bah, carrément,
tu peux faire ça. T'entends un son, tu devines.
C'est ça.
Ça doit exister, non?
Ça s'appelle Spotify.
Ah ouais.
Allez, on y va. C'est parti comme d'hab. Vous cherchez les artistes. Ouais, carrément, tout le monde joue. Vous cherchez les artistes qui étaient leaders en mode vente de single, vente de CD, de titres en France. Avant de répondre, vous donnez bien vos prénoms. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour de la table. Là, le champion est pas bien du tout.
Nouveau règlement FIFA Fair Play.
Ouais,
ça nous plaît pas, c'est comme la vidéo.
C'est dur. On démarre avec un petit kiff perso. Ouais. Le 6 juin 1997.
Greg.
C'est Greg.
Alan.
C'est bon, ça fait un zéro.
Ça fait un zéro.
Mon petit kiff perso.
Il est imbattable.
Il s'est souvenu de son nom.
On avait le même kiff perso.
C'est bien.
Moi j'avais juste la la quoi.
On enchaîne avec ce son de l'an 2000. Il y a plusieurs réponses acceptées. Ok.
Ah.
Ok.
D'accord.
Vous oubliez pas que vous donnez vos prénoms.
Ouais.
On y va.
Greg.
Putain, Greg. Il
l'a comédie musicale, les 10 commandements, Daniel Lévy, l'envie d'aimer. Maison de disque.
Polydor. C'était dans le studio de Gilbert Guisman et c'était Albert Manicrout à la batterie, voilà.
Avec une Fender Stratocaster 1972.
Et les costumes, c'était qui?
C'est plus Vélichour à qui aussi.
Impressionnant.
Vous avez mangé un sandwich chauton au déj.
C'était un mardi, il pleuvait.
Je pense qu'on arrête là-dessus.
Ouais, je pense qu'on arrête là-dessus.
Tu peux carrément me mettre le dernier extrait parce qu'on a un petit anniv à souhaiter. Un petit anniv du jour, ouais. Petit anniv sympathique.
Je veux vivre.
Faudel.
Ouais, Faudel.
qui t'anime à Faudel aujourd'hui?
Quel âge il a?
Bah ouais, c'est la question du jour.
Quel
âge
il fait surtout?
45 ans?
Un peu moins de 45.
43.
43.
Moins
41.
Non, un tout petit.
38. 39, 40.
Voilà, 40, tout simplement. Déjà 40.
Mais qu'est-ce qu'il fait?
Je sais pas, je sais pas. J'ai checké vite fait, il a fait 2-3 sons, mais ça fait quand même 1 ou 2 ans, donc bon.
Bah appelle-nous frérot.
Bah ouais, rendez-vous demain pour le blind test.
Oui, bah oui, bien sûr.
Allez, nouveau blind test demain avec peut-être
une émission avant le blind test.
D'ici là, voici la Gireno. Demain, vous serez à la suite.